Le génie du christianisme. Une émission d'Emeline Picard.
Le génie du christianisme vous propose aujourd'hui la grande histoire des années saintes. Alors derrière ce titre, en fait, un ouvrage réalisé par Bernard Berthaud. Bonjour Bernard.
Bonjour.
Alors vous êtes docteur d'abord en médecine, puis en histoire de l'art. Alors vous nous expliquerez peut-être comment on passe d'un sujet à un autre, même si en lisant votre ouvrage, j'ai compris que ça permettait de mieux saisir certaines réalités, en particulier de l'arrivée des pèlerins à Rome. On aura l'occasion d'y revenir. Et vous venez de publier un ouvrage, La grande histoire des années saintes, cérémonial, art liturgique, pèlerinage et pèlerin, aux éditions CLD. Alors, j'imagine que le contexte de notre année sainte 2025, déclarée par le pape François, joue un rôle. Mais à parcourir le livre et surtout les splendides illustrations, j'imagine que c'est un sujet qui vous intéresse depuis longtemps.
Oui, parce que je ne suis pas plus tout jeune.
Donc, ce n'est pas ce que je suggérais, cher monsieur.
J'ai vécu quelques années saintes, et j'avoue que moi qui suis très intéressé par la liturgie, par le fait liturgique et le pourquoi surtout du fait liturgique, hein, parce que le geste liturgique a toujours un sens, souvent d'ailleurs un sens presque trivial. Hein, la liturgie, on a besoin d'un vase pour le vin, d'une assiette pour le pain, de quoi se laver les mains, de quoi mettre de l'encens. Donc la liturgie, surtout la catholique, est quelque chose de simple. Et donc, j'étais très intéressé par ce rituel particulier de l'année sainte où, justement, on va démolir un mur, on va avoir besoin d'instruments que l'on voit pas souvent dans les mains d'un pape ou d'un évêque, hein, c'est-à-dire une truelle, un marteau, du ciment, des briques, voilà. Et donc, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Et puis, le deuxième volet, d'ailleurs, du livre, c'est ceux qui reçoivent, si vous voulez, c'est-à-dire les pèlerins, le pourquoi du pèlerinage, pourquoi on va à Rome, et qu'est-ce qui distingue le pèlerin, effectivement, ce qu'il apporte à Rome et ce qu'il ramène, et comment ce voyage, ce pèlerinage va survivre dans l'esprit de ceux qui l'ont accompli.
On a l'impression, à vous entendre, que vous revenez finalement au génie propre du christianisme, qui est une forme d'incarnation d'idées ou de dogmes très abstraits dans des éléments effectivement très concrets. On casse un mur pour passer une porte. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est qu'une année sainte, finalement ?
Alors, l'année sainte, c'est quelque chose qui... Enfin, le jubilé, exactement, oui. Si on veut dire vraiment les mots, c'est un événement qui est vétérotestamentaire. Hein. Les Israélites de l'Ancien Testament, tous les 50 ans, remettaient ce qu'on veut dire les pendules à zéro, pour employer un langage un peu imagé, c'est-à-dire que tous les 50 ans, d'abord, on demandait pardon à ses proches, et puis on redistribuait une partie de sa fortune, hein, pour repartir en quelque sorte à zéro spirituellement, mais aussi économiquement. Hein, c'est très fort, ça, dans l'Ancien Testament. Et donc, Boniface VIII, dont on connaît les difficultés de règne qu'il a eues, affrontées avec les rois européens, affrontées avec beaucoup de forces négatives, hein, les armées, il a dû fuir Rome et ainsi de suite, va décréter cette année sainte 1300 parce qu'il imagine, enfin il n'a pas tort d'ailleurs, que justement cela fera réfléchir les possédants, fera réfléchir les puissances européennes et partir d'un nouveau pied dans ce début de XIVe siècle. C'est vraiment ça qui anime le pape Boniface.
Alors là, il y a une dimension politique qu'on saisit bien. Comment vont réagir les fidèles, ceux qui ne sont pas à la tête des royaumes ou des empires, face à cet appel de Boniface VIII ? Est-ce qu'ils adhèrent aussi à cette démarche de renouveau, finalement, à l'orée du XIVe siècle ?
Ah oui, tout à fait, parce que je ne sais pas si l'entourage de Boniface VIII avait imaginé le nombre de personnes, mais il y a plus de 200 000 personnes, européens évidemment, qui font le voyage. Et on sait qu'il y a des gens qui sont venus d'Oslo, si vous voulez, de la Courlande, c'est-à-dire près de la mer Baltique, du fin fond du Portugal, de Sicile. Ça a été un mouvement absolument extraordinaire et qu'on retrouve d'ailleurs dans les chroniques. Ce début du XIVe siècle, l'observateur a été stupéfait de voir les routes d'Europe se couvrir de gens, hommes et femmes, d'ailleurs enfants quelquefois, pour se diriger vers Rome.
Alors quel était dès cette année 1300, mais peut-être que c'est un mouvement qui se retrouve à chaque année 5, à chaque jubilé, quel était l'objectif pour ces fidèles ? À quoi finalement s'attendaient-ils ? Quels étaient les rituels qui pour eux étaient importants ? Est-ce que le chroniqueur le décrit ?
Oui, bien sûr, le pèlerin se met en marche pour acquérir un bien inestimable, c'est-à-dire le passage au royaume des cieux, c'est-à-dire avec l'indulgence, c'est-à-dire être libéré du poids de ses péchés. Alors, cette démarche de pèlerinage, elle n'a pas attendu le début du XIVe siècle pour se mettre en place. Dès le IVe siècle, il y a des pèlerins qui prennent la route pour aller à Jérusalem, dans cette même démarche, d'aller voir le lieu où le Christ est mort et ressuscité. Donc, toujours dans cette démarche pèlerine. Mais aller à Jérusalem au XIVe siècle, même au XIIIe siècle, ça devient absolument impossible. Les royaumes latins ont disparu, les routes sont extrêmement peu sûres, donc les lieux de pèlerinage en Europe se développent. Et évidemment, Boniface VIII se rend bien compte que il met en exergue, d'une part, cette démarche de purification, mais aussi de vénération des reliques des apôtres. Parce que, quels sont les meilleurs exemples pour un chrétien de 1300, comme d'ailleurs pour un chrétien d'aujourd'hui, si ce n'est la démarche de martyrs des saints apôtres Pierre et Paul et des autres, si vous voulez, du diacre Laurent, et ainsi de suite. Et d'autant plus qu'à Rome, on conserve des reliques dominicales, c'est-à-dire des morceaux de la vraie croix, quelques épines et ainsi de suite. Donc les pèlerins vont d'abord à Rome, bien sûr, pour recevoir l'indulgence et vénérer ces reliques. Et comme les reliques sont dans des églises différentes de Rome, eh bien, ils ne vont pas seulement à Saint-Pierre, là où est, et on le savait déjà à l'époque, où est enterré Pierre, mais on va aller à Saint-Paul sur la voie d'Ostie, on va aller voir la Sainte Mangeoire à Sainte-Marie-Majeure, on va aller voir les chaînes de Pierre à Saint-Pierre-aux-Liens, on va aller à Saint-Sébastien, et ainsi de suite. Et donc, petit à petit, se crée une sorte d'itinéraire à travers les églises vénérables de Rome, les grandes basiliques et les petites basiliques, qu'on appellera ensuite des basiliques mineures. Et petit à petit, ce circuit, si vous voulez, se met en place et s'idéalise en quelque sorte. Ça devient le circuit du pèlerin, où chaque station est un lieu où on acquiert une autre dimension de vertu, et ainsi de suite, si vous voulez. Et
est-ce que le mobilier liturgique dans chacune de ces basiliques évolue dans cette perspective ? Est-ce qu'il y a des ostensoirs ? Est-ce qu'il y a un certain nombre d'éléments d'architecture, peut-être, qui, sous l'apparition de ce chemin dévotionnel, changent ?
Oui, bien sûr, à l'approche des années saintes qui sont décidées à l'avance, des personnes qui en ont les moyens vont offrir d'abord des reliquaires pour tel ou tel objet. Par exemple, en 1350, deux marchands vénitiens, sans doute très à l'aise, vont offrir un magnifique cadre pour la Véronique, pour le tissu qui porte la Sainte Face. Des évêques aussi envoient des reliquaires, des évêques du nord de l'Europe, et d'un peu partout. Et puis les pontifes romains, les papes, les cardinaux vont faire réaliser des pièces. Et c'est d'abord, avant qu'on ait des instruments qui vont faire écrouler la porte et ainsi de suite, la renaissance, en quelque sorte, des objets passe par une création des reliquaires, essentiellement des reliquaires.
Alors, je me permets, et c'est bien dommage d'être à la radio, de signaler que vous avez illustré votre ouvrage de photographies absolument magnifiques, qui susciterait presque la tentation tellement ces reliquaires et tellement ces objets sont absolument magnifiques. Et on voit très bien que derrière le rituel, finalement, ce sont finalement les artistes de chaque période qui sont sollicités. Parce que j'imagine que chaque génération doit apporter sa pierre à l'édifice et qu'il y a finalement des reliquaires et des améliorations qui sont, j'allais dire, au goût du jour. Alors c'est peut-être dur pour certains objets qui sont remisés dans les greniers, mais en même temps c'est une puissante motivation pour les artistes religieux, non ?
Mais oui, bien sûr, parce que les artistes tout court, parce que vous savez, jusqu'au XVIIIe siècle, les artistes créent des objets religieux ou liturgiques et ils créent autre chose aussi. Hein. Donc c'est tout l'art qui est concerné. Benvenuto Cellini, par exemple, sous Paul III, et tous les artistes contemporains sont sollicités par des personnes qui ont les moyens d'offrir, hein, parce que c'est toujours dans cette idée de don. Et les années saintes sont propices à ça, parce que à l'appel des chapitres des basiliques majeures, à l'appel du pontife romain, les princes qui s'associent à cette démarche vont vouloir faire, même dans leur pays, depuis leur pays, offrir des objets qu'ils vont confectionner à cette intention.
Alors, ce qui est très étonnant, et là aussi, je vous encourage quand même à feuilleter cet ouvrage ou à vous le faire offrir, ou à vous l'offrir, c'est qu'il y a quand même des photos d'art religieux qui peuvent paraître très étonnant, mais je vous assure que c'est magnifique, de briques, de marteaux, de truelles. Alors, c'est vrai que dans un ouvrage d'histoire de l'art religieux, ça peut paraître surprenant, mais on s'aperçoit que même dans des objets très triviaux, hein, il y a toute une dimension artistique, et j'avoue que je ne pensais pas un jour admirer des marteaux et trouver ça absolument magnifique.
Oui, oui, parce que quand on a pris l'habitude de démolir le mur qui masque l'année sainte, hein, la porte sainte, excusez-moi, puisque le pape, puis les cardinaux, puis le peuple de Dieu va passer à travers cette porte, hein, pour se revivifier en quelque sorte, eh bien, on va créer des instruments. Hein, donc un marteau pour démolir le mur, une truelle pour le reconstruire, un coffret dans lequel on va mettre les médailles du pontificat pour rappeler l'événement, si vous voulez, tout cela enfermé et démoli tous les 25 ans ou quelquefois un peu avant quand il y a une année sainte extraordinaire. Et évidemment, ces objets, eh bien, vont être offerts jusqu'au XVIIIe siècle par des souverains, et puis au XIXe par des sociétés catholiques, et au XXe siècle également. Au XXe siècle, la jeunesse catholique de France va offrir le matériel pour l'année sainte 1925, donc un don à Pie XI, excusez-moi, et ainsi de suite. Donc, et puis on veut faire ce qu'il y a de mieux, bien évidemment. Ça pérennise la chose.
Alors, et de mieux
jusqu'en 2000, jusqu'en 2000, puisque à l'année 2000, Gucci, le grand Gucci, a créé un marteau dont le pontife ne s'est pas servi parce que il était un peu fatigué, comme vous le savez, il était d'une santé qui n'était pas très bonne, et donc c'était trop compliqué de lui faire une cérémonie si longue debout, mais il s'est servi d'un marteau en 83. C'était d'ailleurs le marteau qui avait servi à Pie XI. Et donc, c'est quelque chose qui a perduré jusqu'à l'aube du troisième millénaire.
Est-ce que toutes les truelles étaient utilisées ? Parce que là, j'ai l'ouvrage entre les mains. On a quand même des truelles en argent doré, en manche d'ivoire, en argent ciselé. Enfin, ce sont des œuvres d'art. Je me demandais si, à titre personnel, j'avoue qu'avec une telle truelle ou un tel marteau, je n'oserais pas l'utiliser.
Oui, ben on l'utilise. C'est aussi symbolique parce que le pape ne tape pas non plus comme.
Voilà. Mais c'est pas de la maçonnerie,
par exemple. Oui, pour les truelles, le pape va sceller trois briques, une recouverte d'or et deux recouvertes d'argent. À sa suite, le cardinal grand pénitencier va aussi mélanger du ciment pour sceller trois autres briques. Et puis ensuite, ce sont les pénitenciers des archibasiliques qui, avec des truelles plus simples, vont continuer le mur. Et puis, ce qui est quand même tout à fait extraordinaire, c'est que les briques vont être personnalisées. Dès le XVIIe siècle, les familles, et pas forcément que les grandes familles, mais les familles romaines, les gens qui habitent autour d'une des basiliques, vont venir avec leur petit panier, avec deux, trois briques qu'ils ont fait faire par un briquetier, puisque c'est quand même un objet extrêmement populaire dans le Latium. La brique, tout est construit en briques. On ne met pas des pierres, si vous voulez, on met de la brique. Eh bien, le Popolino Romano, les gens de Rome, vont arriver avec leurs briques, mettre leur nom dessus, pour que 25 ans plus tard, leurs petits-enfants ou leurs enfants essayent de récupérer la brique. Et on se promène, enfin, quand on est à Rome et qu'on va voir des amis qui sont romains depuis plusieurs générations, qu'est-ce que vous trouvez dans une petite vitrine, dans la salle à manger ou le salon? Quelques briques, ah oui, c'est Il Nonno qui avait donné cette brique et on l'a récupérée. Et ça se fait, en 2000, ça se fait encore, ça s'est fait encore. Et en 2016 aussi, il ne faut pas croire que ça n'existe plus. Et c'est à qui apportera les plus belles briques, c'est à qui fera faire telle ou telle brique, et c'est quelque chose qui est encore extrêmement vivant. Il y a un vrai marché très, très pointu, si je puis dire, de la brique pour le mur de Porte Sainte.
Nous écoutons avec un grand bonheur, j'espère qu'il est partagé, Bernard Berthaud, auteur d'un ouvrage alors qui se lit mais qui surtout se contemple, tant les illustrations sont magnifiques et déroutantes. La grande histoire des années saintes, cérémonial, art liturgique, pèlerinage et pèlerin. Alors c'est vrai qu'on comprend beaucoup mieux le rituel et surtout la signification de chacun des aspects du du rituel. Alors, avant la pause, on parlait truelle et marteau. Et j'aimerais assez qu'on parle maintenant bâton, médaille et autres souvenirs, parce qu'on se rend compte qu'au-delà du rituel et du pèlerinage, j'allais dire un petit peu comme le tourisme moderne, on arrive avec des cadeaux et on repart avec des souvenirs. Et là aussi, cette incarnation est très importante et n'est pas limitée aux familles romaines et à leurs briques, si je suis votre ouvrage.
Absolument. Effectivement, le pèlerin de toute l'Europe va se distinguer d'abord par une allure particulière. C'est un marcheur, évidemment. Il va, surtout à son retour, avoir sur son chapeau, sur sa pèlerine, ce qu'on appelle des insignes, des enseignes, qui sont des insignes d'ailleurs, rappelant ce pèlerinage. Mais pour partir, il s'aide d'un bâton, comme vous le disiez, et ce bâton va être plus ou moins orné. Au XVIe siècle, arrive en Europe un matériau qu'on ne connaissait absolument pas auparavant, qui est le bambou. Le bambou, ça a l'avantage d'être extrêmement solide, pas cher du tout, et léger en même temps. Et donc, les bambous vont être, qu'on va appeler aussi bourdons, va permettre aux pèlerins de marcher. Et petit à petit, ces bambous vont être ornés, parce que c'est plus joli d'avoir un bâton avec des petites figures, et ainsi de suite. Et donc, à la fin du XVIe siècle, et jusqu'au XVIIIe siècle, on va orner son bambou. Alors, très peu sont conservés. Il y en a peut-être une dizaine dans les musées européens répartis entre le Kunsthistorisches de Vienne, entre le Grand Musée de Munich, le Victorian Albert Museum, le Musée du Vatican. Et je me suis amusé, si je puis dire, à rechercher certains de ces bâtons qui sont historiés, qui sont vraiment très intéressants.
Et qui sont magnifiques. Pour nos auditeurs qui n'ont pas les images encore sous les yeux, vous parliez de deux, trois images, ce sont des œuvres d'art. Enfin, c'est absolument extraordinaire. Vos reproductions montrent des bambous. Alors, ça me réconcilie avec les bambous, parce que vous avez des reproductions, effectivement, si je vois bien, de Saint-Pierre de Rome, d'une finesse et d'une précision absolument étonnante. Donc, là aussi, une incarnation de la dévotion qui est très surprenante.
Absolument, absolument. Et historier, c'est vraiment très intéressant à étudier. Et les enseignes, c'est un peu la même chose, c'est plus simple. Et c'est à la portée de toutes les bourses, puisque c'est en plomb ou en étain, et qu'on a fait cela pendant un millénaire à peu près, si vous voulez. L'enseigne avait cette double capacité, c'est-à-dire que c'était un souvenir pour le pèlerin lui-même, mais c'était aussi un laissez-passer, parce que quand on voyait dans les faubourgs de Bruxelles ou de Marseille ou autre arriver un homme épuisé qui avait cousu sur sa pèlerine ce genre d'enseigne, on disait « Ah, il vient de Rome, ce n'est pas rien, c'est quelqu'un qui a fait cet effort ». Et on l'accueille, si vous voulez, il frappe à la porte d'un couvent, on l'accueille, il a le couvert et le logement. Donc c'est extrêmement important. Et souvent, d'ailleurs, les pèlerins qui ont idée que, après avoir fait ce pèlerinage, ils sont en quelque sorte un peu protégés, plus protégés, ils se font enterrer avec leur enseigne. Et on a trouvé dans de nombreuses fouilles de cimetières, de nécropoles, ces enseignes qui portent, alors qu'elles se portent une enseigne d'un pèlerin romain, d'un romé, comme on dit, eh bien les clés avec l'épée également en sautoir de Saint-Paul, la Véronique, bien entendu, le buste de Saint-Pierre et Paul, qu'on avait vénéré, que les pèlerins avaient vénéré au Latran, et ainsi de suite, si vous voulez.
Et j'ai même vu une petite reproduction des fameuses briques, puisqu'on est sur les portes. Des petites facsimilies de briques, alors plus petites en métal, très, très ornées de toute une série de symboles religieux. Donc, l'incarnation de la brique, il n'y a pas que ça, évidemment, mais c'est très étonnant de voir à quel point cette dimension est prenante dans cette recherche de la miséricorde.
Oui, parce que, si vous voulez, en 1900-1925, tout le monde ne pouvait pas trouver une vraie brique, parce que même si les murs sont très hauts et qu'ils sont doubles, bon, il y a dans une des photos où on montre, après l'écroulement du mur de Saint-Paul, ça date en 1925, donc, ou à Noël, après Noël 24, eh bien, les gens qui cherchent dans un amas de briques, soit leur brique à eux, soit une brique anonyme qu'ils peuvent emporter. Mais quand on ne peut pas, eh bien, il y a toujours des gens qui savent comment... comment dire, réjouir les pèlerins, eh bien, à partir de 1900, on fabrique des briques souvenirs. La maison Tanfani, à Rome, va fabriquer des briques souvenirs, et le pèlerin lambda va repartir chez lui avec une brique souvenir. C'est pas la vraie brique, c'est pas...
Mais...
La vraie brique, si vous voulez, elle a une dimension de sacramentale. Hein. Tandis que là, c'est un souvenir, mais enfin, c'est quand même assez fort.
Écoutez, on pourrait vous entendre et vous écouter encore pendant des heures, donc je ne peux que conseiller d'acquérir et surtout de feuilleter, de venir et de revenir encore sur votre ouvrage magnifiquement illustré, parce que on n'a pas évoqué les tissus, les bijoux, le rituel, enfin
oui.
Voilà, surtout n'hésitez pas à aller voir aussi les coffres et l'architecture, sans compter toutes les photos et j'imagine le travail que ça a dû vous demander d'amasser tout ce matériel. Donc, aux éditions CLD, la grande histoire des années saintes, cérémonial, art liturgique, pèlerinage et pèlerin aux éditions CLD, bon, ça donne quand même un regard très différent sur ce que nous allons vivre. Un très grand merci Bernard Berthaud, merci à notre technicien et à bientôt.
À bientôt.